Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Une pluie de coups, de mensonges et de soubresauts politiques. Les quatre policiers suspendus sont convoqués aujourd'hui en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. Emmanuel Macron a dû reprendre la main sur ce dossier. Il se dit ce matin très choqué. Mais la réécriture de l'article 24 par une commission indépendante ne passe pas dans la majorité. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, fait connaître son opposition. Dossier dans un instant. Et avec Guillaume Bié. Et avec Jean-Rémy Baudeau. Dans l'actualité encore, un nouveau-né atteint de Covid en Haute-Savoie. Il a failli ne pas survivre. Les universités qui réclament le retour des étudiants dans les facs avant le mois de février, comme c'est prévu. La bataille du ski en Europe, Suisse et Autriche veulent maintenir leur station pour Noël. Et les grands festivals de musique qui préparent leur reprise pour le printemps prochain. Invité d'Europe Midi, le neurologue et chercheur en neurosciences Lionel Nakache, qui nous explique dans son dernier livre que notre cerveau fonctionne comme une salle de cinéma.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des images glaçantes et une atmosphère bouillante dans la majorité avec désormais des députés qui se sentent humiliés par l'annonce de la réécriture de l'article 24. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, exprime son émotion et son opposition. On va y venir. Mais d'abord, Jean-Rémy Baudeau, Emmanuel Macron, qui face au désordre, s'est senti obligé d'intervenir. La présidence vient de confirmer ce que vous nous disiez dès ce matin. Le chef de l'État a réagi au passage à tabac d'un homme noir par des policiers.
Oui Patrick, on vous en parlait dès ce matin sur Europe 1. Emmanuel Macron se dit très choqué par le passage à tabac de ce producteur, cet homme noir, par des policiers. Des propos qu'il a en fait tenus dès hier devant Gérald Darmanin lors d'un entretien à l'Élysée. Selon nos informations, le président avait alors demandé à son ministre de l'Intérieur des sanctions très claires contre les policiers. C'est une forme de rappel à l'ordre, car plus tôt dans la semaine, le chef de l'État avait déjà demandé des explications à Darmanin sur la gestion de la dispersion du camp de migrants à République.
Et sur l'article 24 de la loi sécurité qui encadre la diffusion d'images de policiers, Jean Castex a voulu calmer le jeu hier soir en nommant une commission indépendante chargée de réécrire cet article. En réalité, Jean-Rémy, il a mis le feu à la majorité.
Oui, une commission pour tenter de réécrire un texte déjà lui-même réécrit la semaine dernière par le Premier ministre, alors même qu'une partie de la majorité souhaite supprimer cet article. Ça ressemble quand même beaucoup à un enterrement de première classe. Il faut dire que la pression est de plus en plus forte depuis l'annonce hier soir de cette commission. Vous en parliez, de nombreux parlementaires LREM ont publiquement fustigé l'idée. Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée, proche parmi les proches du président, il a fait part de sa vive émotion, affirmant, je cite, qu'une telle commission constituerait une atteinte aux missions du Parlement. Il y aura une réunion de crise lundi entre Darmanin et les députés marcheur de la commission des lois, mais on imagine que ça ne changera pas grand-chose. Au sein même du gouvernement, la séquence commence à créer des fractures. La macronie se déchire. Reste à savoir combien de temps Emmanuel Macron pourra réellement rester silencieux.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Dans ce dossier de Michel Zecler, cet homme roué de coups dans l'entrée d'un studio de musique du 17e arrondissement de Paris samedi dernier, quatre policiers ont été suspendus et Gérald Darmanin a demandé leur révocation. Guillaume Bié, ils n'ont pas seulement été violents sans raison, ils ont aussi menti, d'où les poursuites pour faux en écriture publique.
Oui, c'est le soupçon parce que le procès verbal dans lequel l'un des policiers relate l'intervention ne correspond manifestement pas à ce qu'il s'est passé, du moins à ce que l'on voit sur la vidéo. À aucun moment le policier qui rédige ce PV ne fait état des nombreux coups portés par ses collègues et lui. Tout juste évoque-t-il à deux reprises des coups de matraque télescopique dont l'individu parvient à se saisir, peut-on lire, ce que l'on ne voit pas sur les images. Faux en écriture publique, c'est un crime quand il est commis par un policier, c'est passible d'une cour d'assises. En revanche, dans ce PV, il est fait mention de la grenade lacrymogène lancée dans le hall par un policier non identifié, qui l'a été depuis. Un geste qui n'est pas formellement interdit, mais très fortement déconseillé en intervention. Ce quatrième policier, donc lui aussi suspendu à titre conservatoire.
Si la vidéo n'avait pas été tournée et diffusée, Michel Zecler aurait sûrement été jugé en comparution immédiate pour voie de fait sur des policiers. Il a tout de même passé 48 heures au commissariat, ce qui veut dire que sa garde à vue a été prolongée par un magistrat du parquet.
Eh oui, puisque toute prolongation de garde à vue doit être validée par un magistrat, en l'occurrence le procureur, qui doit se faire présenter le suspect physiquement ou par visioconférence. Dans la réalité, à Paris, c'est très rarement le cas, vu le nombre de gardes à vue quotidiennes. Il y en avait une quarantaine samedi dernier. Mais légalement, que le suspect soit présenté ou pas au procureur, la prolongation de sa garde à vue doit être écrite et motivée. C'est obligatoire dans la réalité. Ça se traduit par un échange de fax entre le commissariat et le parquet sur la base de ce qu'indique l'enquêteur. Voilà pourquoi il a fait 48 heures de garde à vue sans avoir été vu par un magistrat.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité encore, la communauté universitaire qui s'impatiente. Emmanuel Macron et sa ministre Frédérique Vidal ont annoncé une réouverture des facultés à taux plein début février seulement. Or, Virginie Riva, les étudiants, les profs, les présidents d'université trouvent qu'il y a urgence.
Oui, détresse psychologique, risque de décrochage massif et précarité économique. Voilà les trois grandes difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants. Sur les enseignements, les étudiants sont perdus et principalement les premières années qui ne comprennent pas, nous disent les professeurs, le fonctionnement du travail universitaire. Des étudiants de première année qui sont pour la plupart totalement désocialisés depuis mars dernier. L'isolement et les problèmes économiques entraînent aussi chez beaucoup de la dépression. Les recours à une aide psychologique ont triplé selon les remontées des services de santé sur les campus. Un abattement qui touche même les étudiants qui s'en sortent plutôt bien, comme Malena, en master à Sciences Po Strasbourg, au micro d'Arthur Elmbaché.
Je me sens pas bien, je me sens comme dans un bocal. Et ce qui est difficile, c'est que moi j'ai l'impression de pas faire mon master parce que j'ai du mal à suivre. J'ai toujours été une bonne élève et là je pense que ça fait deux semaines que j'ai pas pris de notes dans un cours, quoi. Ouais, je suis triste, je renonce à des années qui sont charnières dans ma vie, donc... Oui, je me sens plus fragile que ce que j'étais avant, alors que j'ai toujours eu un mental d'acier, quoi.
Voilà pourquoi les présidents d'université demandent un retour en présentiel dès la mi-janvier. Pourquoi la mi-janvier ? Parce que c'est la date de passage au deuxième semestre. Ils proposent soit de privilégier le retour à la fac dès première année, soit un retour à 50% pour tous. Mais impossible, selon eux, d'attendre le 20 janvier, comme le souhaite le gouvernement, pour faire un point sur la situation sanitaire.
Virginie Riva.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la suite, un nouveau-né atteint de Covid en Haute-Savoie et les prix de l'immobilier en reflux pour la première fois en région parisienne depuis plus de 10 ans.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La pression continue de baisser à l'hôpital où le nombre de malades est descendu à moins de 30 000 avec 4 000 patients en réanimation et encore 340 morts hier. À Rumilly, en Haute-Savoie, un nouveau-né atteint de Covid. Non seulement il a été testé positif 3 jours après sa naissance, mais il a développé des symptômes. Il est maintenant, comme sa maman, tiré d'affaire, Jean-Luc Boujon.
Oui, mais il y a une grande période d'incertitude autour du petit Dario, né le 21 octobre dernier à Annecy, avec des symptômes inquiétants, explique Joy, sa jeune maman de 24 ans.
En fait, il est né, il avait les yeux qui partaient en coucher de soleil, c'est-à-dire que les yeux partaient vers le bas. Et le lendemain, il a fait 42 fièvres et ils ont dû faire un prélèvement urinaire, de sel, ponction lombaire et prélèvement sanguin et le test PCR du Covid. Et en fait, tout a été négatif, sauf le test PCR était positif, donc il a bien été positif au Covid à 3 jours de vie.
La maman aussi est positive, elle est persuadée que c'est elle qui a transmis le virus à son petit.
J'ai pas attrapé à la clinique, sinon il y aurait eu que moi et mon fils de malade, vous voyez. Il y aurait pas eu ma maman, mes grands-parents, mon frère. Donc, je pense que tout le monde l'a attrapé à la maison et le bébé a été positif parce que j'étais enceinte.
S'ensuit des moments difficiles à l'hôpital d'Annecy où la maman est seule avec son bébé.
Le fait d'être isolée toute seule dans une chambre avec l'équipe médicale qui, du coup, à cause du Covid, venait me voir que en cas de force majeure, donc on posait mes plateaux repas devant la porte, ils rentraient, ils étaient déguisés en cosmonaute. Enfin, j'avais aucun contact avec l'extérieur, j'avais pas le droit d'ouvrir la fenêtre pour prendre l'air. Pour moi, j'ai vécu ça comme une prison. Et puis le problème, c'est que les médecins n'était jamais rassurant, donc c'est pas de leur faute. Hein. C'est que du coup, c'était tellement inédit comme cas, c'était le premier nouveau-né. Donc pour eux, ils y allaient à tâtons. Ils me disent que ça peut se dégrader du jour au lendemain, comme ça peut s'améliorer du jour au lendemain. Ils n'avaient pas assez de recul et pas assez d'antécédents. C'est ça qui m'a manqué aussi, c'est ce côté rassurant de l'équipe, quoi.
Mais peu à peu, la fièvre baisse et le bébé continue de bien s'alimenter. Il se remet donc progressivement. Et aujourd'hui, il est rentré à la maison. Il va bien. Des examens ont montré qu'il n'avait aucune séquelle neurologique. Mais l'épisode a quand même été très dur à vivre pour sa maman.
Jean-Luc Boujon à Lyon. Effet indirect et heureux de la crise sanitaire, les prix des appartements en région parisienne sont en train de repartir à la baisse pour la première fois depuis quoi, une dizaine d'années, Élise Enjean, hein ?
Absolument, une baisse de 0,8% dans toute l'Île-de-France d'octobre à janvier 2021, un peu plus marquée dans Paris intramuros, moins 1,2%, ce qui veut dire que le prix au mètre carré n'atteindra pas comme prévu les 11 000 euros, on sera plutôt autour des 10 700. Alors comment expliquer cette baisse ou plutôt ce ralentissement de la hausse des prix en Île-de-France? Eh bien, selon les notaires, c'est la conséquence du premier confinement, à cause duquel les délais de vente se sont allongés, ce qui a permis des négociations plus serrées sur les prix. Mais attention, cette baisse ne concerne que les appartements, vous le disiez. Côté maison, les prix sont à la hausse en Île-de-France, sur l'année plus 9,5% en petite couronne, selon les dernières estimations des notaires, et pour cause, la demande est plus forte depuis le premier confinement.
Merci Élise Dangean. Pour les stations de ski à Noël, l'Europe continue de s'en mêler les spatules. Lille, station fermée en Allemagne, remonte-pente arrêtée en France. Deux pays qui aimeraient que toute l'Europe décrète une interdiction générale. Mais l'Autriche et la Suisse ne veulent pas sacrifier leur tourisme et ont déjà lancé leur saison tout chousse. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une chance de trouver une position commune ?
Eh bien, ça ne sera pas simple, Patrick. Hein. Soyons clairs, il n'y a pas de directive européenne sur les tire-fesses. Les sports d'hiver, ce n'est donc pas une compétence de Bruxelles. Depuis hier, la Commission européenne répète en boucle que ce sont les États qui doivent gérer ça. Mais elle ajoute aussi qu'il faut rester très vigilant. Personne n'a oublié comme des skieurs de toute l'Europe ont été contaminés dans la station autrichienne d'Ischgl lors de la première vague. Donc, en coulisses, ça s'active pour essayer de convaincre l'Autriche et la Suisse, qui n'est pas dans l'Union, mais quand même au cœur de l'Europe. Jean Castex vient même de parler à la présidente suisse. C'est un travail de conviction, on fait valoir les risques liés à la pratique du ski, explique un diplomate. Cette méthode française et allemande de pression, ce n'est pas possible, réplique une source suisse qui ajoute « ils n'ont qu'à interdire à leurs ressortissants de bouger ». À ce stade, ça semble effectivement la piste la plus réaliste, mettre en place des quarantaines dissuasives pour ceux qui reviendraient des autres nations alpines. Ça, c'est possible, dit Bruxelles. Elles sont déjà en place, d'ailleurs, en Allemagne, mais pas en France.
Bon, merci Isabelle Horry. À Bruxelles, si on n'a pas de ski, on aura les festivals qui ont dû tout annuler cette année et qui comptent bien accueillir à nouveau leur public dans les mois à venir, à partir du printemps et plus sûrement en été. Les patrons de festivals le font savoir dans une tribune commune. Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes de Belfort.
Pour l'instant, rien ne nous interdit d'y croire. D'autre part, il y a des avancées quand même technologiques et médicales qui sont très sérieuses. Donc bien entendu, tout ça nous laisse à penser qu'on peut imaginer nos scénarios, en tout cas dès à présent. De nombreux festivals, dont les Eurockéennes, ont déjà signé des partenariats. On a signé aussi des nouveaux artistes. Bref, toute la machinerie doit se mettre en branle dès le mois de décembre. Dans quelques jours, début de la semaine prochaine, nous allons annoncer l'ensemble de la programmation que l'on annonce d'habitude en avril, mais là nous avons travaillé très tôt. Ça va être le cas aussi de Musilac, je crois que ça va être le cas aussi du festival Beauregard. Nous sommes nombreux en tout cas à être, j'allais dire, dans les starting blocks pour annoncer tous les artistes qui eux aussi nous ont aussi confirmé leur venue.
Propos recueillis par Angèle Châtelier. Le temps à Nice a dit attention aux fortes pluies dans le sud.
Oui, avec actuellement, Patrick, trois départements en vigilance orange. Les Pyrénées-Orientales, les deux départements Corse sont concernés. Alors cet après-midi, sur le Roussillon, l'Aude, l'Hérault et la Corse, il va pleuvoir. Le ciel est très couvert. Au fil des heures, ces pluies vont s'intensifier. Prudence dans ces régions. Cet épisode pluvieux va se poursuivre ce soir, cette nuit. Et demain, on va avoir un week-end agité dans le sud. Et puis, il vient se mêler à ces fortes pluies, le vent d'autant souffle. Le vent d'Est souffle sur le Var également. Prudence de la Bretagne au Hauts-de-France, sur le quart nord-ouest. Nous avons une petite perturbation qui va vous apporter quelques petites gouttes. Partout ailleurs, c'est un temps sec et assez ensoleillé. Les températures, 6 à 20 degrés. Grande amplitude, 6 à Strasbourg et 20 pour Ajaccio.
Merci Anissa.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Notre invité dans un instant, le neurologue Lionel Nakache, qui nous explique comment notre cerveau se fait du cinéma.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour Patrick Cohen.
Neurologue et chercheur en neurosciences à la Salpêtrière et à l'Institut du cerveau, vous continuez dans vos travaux d'explorer la conscience, c'est-à-dire la capacité qu'a un être humain de penser, de formuler des pensées à la première personne. Et c'est toujours passionnant parce que si le cerveau est sans doute l'objet le plus complexe de l'univers, vous avez le don de rendre les phénomènes compliqués le plus simple possible. Et en plus, vous aimez le cinéma.
En plus, j'aime le cinéma, je pense, comme beaucoup de monde en fait. Et c'est vrai que ce livre, c'est un peu une aventure, donc le cinéma intérieur, d'utiliser en fait, de partir de la métaphore du cinéma.
Ouais.
Pour en fait arriver à un résultat qui même dépassait en fait mes attentes. C'est-à-dire qu'au début, ça commence comme une métaphore de se dire en réalité que, évidemment, quand on est au cinéma, on est assis dans une salle obscure, on nous présente des images, nous on perçoit un film, voilà. Il y a un ensemble de phénomènes, d'effets spéciaux, on transforme des images fixes en film continu. Mais là où ça devient vertigineux, c'est que lorsqu'on sort du cinéma, lorsqu'on est dans la rue, et même lorsqu'on se parle tous les deux maintenant, eh bien en réalité, la manière de laquelle je vous perçois, ça s'apparente un peu à du cinéma, au moins.
Vous êtes fasciné de voir que l'évolution des arts visuels a progressivement reproduit le fonctionnement de notre cerveau.
Exactement, c'est quelque chose que je trouve assez sidérant, sans du tout avoir de finalisme, de téléologie. C'est pas que c'était programmé depuis le début que ça doit converger comme ça. Mais on a un peu l'impression, c'est ma grille de lecture, un peu naïve on pourrait dire, parce que je suis pas du tout un expert des arts visuels, mais avec mon regard de neuroscientifique et de chercheur sur la conscience, je suis frappé par l'évolution des arts visuels vers on pourrait dire, se rapprocher le plus en plus, non pas vers une imitation de la nature, vous savez, c'est la vieille définition d'Aristote de qu'est-ce que c'est l'art, c'est l'imitation de la nature, mais plutôt d'une imitation de la manière dont nous percevons la nature.
Ouais.
Et le cinéma culmine peut-être.
Alors, je vais résumer quelques points forts de ce livre étonnant, Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience chez Odile Jacob. Vous montrez donc que notre cerveau fonctionne comme une salle de cinéma, que ce qu'on perçoit et ce qu'on imagine suivent les mêmes circuits, il n'y a pas de différence de nature, et que notre cerveau ne cherche pas la vérité, mais un sens, il produit une interprétation. Alors, pour reprendre dans l'ordre, la salle de cinéma, oui, ou la salle de montage ?
Les deux, je dirais, oui, la salle de cinéma, c'est que c'est vrai que si on prend un phénomène parmi tous ceux que j'illustre et que je raconte dans ce livre, c'est que, effectivement, ce qu'on peut appeler la magie du cinéma, je commence par ça dans le livre, c'est que si on prend conscience de ça, et tout le monde le sait, parce qu'on l'a tous appris au collège, au lycée, mais souvent on ne s'est pas arrêté assez sur cette idée, c'est qu'au cinéma, on vous montre des images, et vous ne percevez pas une suite d'images, 24 images secondes, vous percevez un film continu. Et ce film continu, on ne vous l'a pas montré. C'est votre cerveau qui a construit entre deux images le manque, en fait, qui a déjà fait sens, qui a construit du sens, mais à une étape aussi précoce que la perception. Donc effectivement, il y a ce premier effet, mais dès qu'on rentre dans la métaphore du cinéma, tous les effets spéciaux, cuts, les rushes, la colorisation...
Il n'y a pas seulement l'idée que le cerveau crée l'illusion d'un mouvement harmonieux, ça... C'est assez simple à comprendre, comme les 24 images secondes d'une pellicule d'un vieux film. Mais il y a aussi les effets de colorisation ou les effets spéciaux. Parlez-nous de ça,
oui, c'est Lionel Nakache. Si on s'intéresse à la rétine, souvent les gens se disent, les images que je perçois du monde, si on veut parler comme ça, elles viennent de mes rétines. Mais en fait, sur la rétine est capable, les neurones qui sont dans la rétine, les cellules de la rétine, sont capables d'être sensibles à l'information de couleur uniquement dans la partie centrale du champ visuel. Autrement dit, quand je suis en train de vous fixer, c'est normal, l'information de couleur de ce qu'il y a de vous au centre de mon champ visuel, je l'ai. Mais tout ce qui est en périphérie, en réalité, ma rétine n'est pas sensible. Donc ma rétine envoie à mes hémisphères, à mon cortex, des informations en nuances de blanc et gris, en réalité.
Ouais. Mais cerveau le reconstitue.
Et notre cerveau, en fait, subjectivement, on ne perçoit pas en couleur au milieu et en noir et blanc sur les côtés. Ouais. On perçoit uniformément une richesse de couleurs. Et ça, c'est déjà un effet de colorisation, une sorte de technicolor, mais du cinéma intérieur.
Oui, vous citez une expérience réalisée par des Américains dans les années 70 où des participants lisent un texte sur un écran. Les chercheurs changent l'affichage au fur et à mesure
exactement.
De leur lecture, mais les lecteurs n'y voient que du feu.
Ouais.
Ils sont uniquement sur la partie du texte. Ils ont l'impression de lire une page complète, or ils ne lisent que la...
C'est exactement ça, c'est un peu comme Mission Impossible. Là, cette fois-ci, c'est plus la couleur, c'est même l'ensemble du champ visuel. Ouais. C'est qu'on vous montre effectivement, on vous flash une page, vous pensez lire un texte, mais on change en temps réel la composition de l'image en fonction de votre regard.
Deuxième point, Lionel Nakache, je trouve que c'est le plus troublant, évidemment. C'est l'idée qu'il n'y a pas de différence de nature entre la perception et l'imagination. Expliquez-nous.
Oui, c'est une idée importante parce que pendant très longtemps, on se demandait est-ce que lorsqu'on parle d'une image perçue et d'une image imaginée, est-ce qu'en réalité ça recouvre des mécanismes psychologiques et cérébraux identiques ou est-ce que c'est une sorte de piège de nominalisme ? On utilise un même mot mais pour des choses différentes. Et en réalité, on a pu montrer que lorsque vous forgez une image mentale, vous fermez les yeux par exemple et vous imaginez, je ne sais pas moi, une vache dans un pré ou autre chose, eh bien en réalité, les circuits qui vont être mobilisés par l'imagination sont les mêmes que ceux de la perception. Ce qui veut dire aussi que les maladies de la perception vont aussi impacter l'imagination. Et cet élément est très important parce qu'il permet déjà d'unifier, un peu comme en physique où on unifie des théories, d'unifier le fait que les mécanismes de la perception et de l'imagination reposent sur les mêmes processus, sur ce cinéma, un peu ce que j'appelle la grande famille, mais cette fois-ci du cinéma intérieur, pas du cinéma tout court. Et le point important, c'est qu'il faut développer cette idée, je le fais dans le livre, c'est que, évidemment, c'est une leçon de maturité. Parce que les deux écueils, c'est d'imaginer, en fait, on pourrait dire, si l'imagination et la perception, c'est la même chose, alors le monde n'existe pas. Du relativisme intégral, tous les écueils. Et c'est pas du tout ça. Mais simplement, si vous voulez, on est en permanence les interprètes de ce que nous percevons, quand nous le percevons ou quand nous l'imaginons. Et en réalité, c'est la même essence, comme vous le disiez, mais on distingue deux sens dans le cinéma intérieur. Soit les informations qui viennent du monde et qui montent en nous, soit ce que nous projetons sur le monde. Et en permanence, il y a un dosage des deux, et évidemment, dans l'imagination, ce que nous projetons sur le monde perçu est plus fort que ce que nous recevons, et inversement dans la perception.
Ça veut dire que dans la perception, il y a une part d'imagination, et que dans l'imagination, il y a une part de vraie perception visuelle. J'ai envie de vous demander, c'est pas dans votre livre, mais sans doute dans d'autres, je me souviens, est-ce que ça vaut aussi pour la mémoire et les souvenirs ?
Absolument. Cette grande famille, elle s'étend aux hallucinations, évidemment, qui sont, on pourrait dire, une forme d'imagination totale, pure, où il n'y a rien. Et pour les souvenirs. Les souvenirs vécus, les souvenirs des scènes vécues, épisodiques, reproduisent également. Et on a une situation qu'on appelle la fantaisie. des sujets, des individus. On ne parle même pas de patients neurologiques. Et c'est, souvent, les gens, il n'y en a pas beaucoup, mais gens qui viennent vous consulter, qui me disent « Écoutez, c'est dingue, parce que je me souviens très bien de ma vie, j'ai une perception normale, mais je suis incapable de, lorsque je pense à un de mes souvenirs, je sais pas, mon mariage, une scène importante, de projeter des images, d'avoir des images. »
Ah.
Et donc, une incapacité, en réalité, à pouvoir forger des images, des souvenirs vécus.
Ouais.
Et donc là, on revient sur cette machinerie du cinéma intérieur, oui.
Et les souvenirs peuvent être, évidemment, réactivés par des perceptions réelles.
Exactement. Et ce qui veut dire aussi que le point important, peut-être aussi, de ce livre, c'est, je commence en disant que c'est comme un préquel, vous savez, dans les films, quand on revient aux origines des super-héros. Parce que là, en fait, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour se dire que nous sommes des êtres de fiction ou d'interprétation. Mais ce que je veux dire, c'est que l'interprétation, elle ne commence pas quand vous pensez à vos opinions politiques ou quand vous pensez à vos croyances, quelles qu'elles soient, mais elle commence dès que vous ouvrez les yeux. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux origines de la fiction, aux origines de la narration. On est en permanence des aides d'interprétation.
C'est-à-dire que l'impression de voir tout ce qu'il y a devant nous, cette impression est fausse. Nous en inventons une partie en
Lionel Nakache. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsque je vous perçois à nouveau et quand vous vous percevez, vous prenez conscience d'un certain nombre d'éléments, mais il y a plein d'éléments dont vous n'avez pas du tout conscience. Et on pourrait imaginer de manière naïve qu'on fonctionne de la manière suivante, c'est que ce que nous percevons consciemment, ben on le perçoit, et en se disant tout le reste, je ne le perçois pas. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. J'appelle ça l'illusion de complétude visuelle. On pense tout voir, et c'est pour ça que dans les illusions, ou par exemple lorsqu'on on vous montre une vidéo où il y a quelqu'un qui va traverser et vous êtes scotché, dire mais je l'ai pas vu, etc. Pourquoi on est scotché? Parce que de base, on pense qu'on perçoit tout. Et ça, c'est très important parce qu'en réalité, cette croyance perceptive très forte, elle est à l'origine de beaucoup de points.
Qu'est-ce que ces découvertes, Lionel Nakache, disent de la vie de tous les jours, de nos comportements en société? Est-ce que ça dit quelque chose sur la fragilité des témoignages, sur la difficulté de faire cohabiter nos imaginaires?
Oui, je pense que ça dit de tout ça. Alors, je ne suis pas un gourou et je n'ai pas une solution magique à tout, mais évidemment qu'avec l'année qui est passée, par exemple, avec tout ce qui a eu lieu autour du Covid, autour des interprétations, autour... En fait, si vous commencez à voir le monde comme 7 milliards de cinémas intérieurs qui tournent en permanence, avec chacun leur lecture, leur interprétation, etc., avec aussi tous les écueils, comme je disais, de disqualifier la réalité. Je ne dis pas que la réalité n'existe pas, évidemment, mais la voie complexe qu'il nous faut trouver en permanence, c'est de comprendre que ce que nous percevons du monde, il ne faut pas le jeter parce que c'est précieux, mais ce n'est pas directement le monde. Et en plus, ça veut dire que nous avons des indices sur nous-mêmes et sur le monde, mais qu'il faut être capable de prendre de la distance, prendre du « je », J-E-U, pour arriver à penser, vraiment avoir une sorte de souplesse. Donc je dirais que prendre conscience du cinéma intérieur, ce n'est pas une garantie de tolérance, mais en tout cas, c'est une voie de lucidité qui peut nous aider, à vraiment faire la part des choses.
Merci beaucoup, c'est passionnant. Lionel Nakache, le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience. C'est paru chez Odile Jacob, évidemment. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Le 13h, Christophe Lamarre, puis la France bouge dans un instant. Bonne journée et bon week-end à l'écoute d'Europe 1.